9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
AVS, alors ce qui est bien avec AVS, c'est que parfois on peut décliner le titre de l'émission le mardi, c'est à votre sexualité, avec Nader Alami qui est là. Bonjour Nader, bienvenue.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Voilà, je rappelle que vous êtes psychosexologue, vous êtes diplômé de l'école de psychosexologie de Paris, vous êtes historien des religions et coach en bien-être. Vous avez fondé Si Libérez-vous, la nouvelle école de l'amour et du couple, où vous accompagnez les personnes qui vivent une situation de célibat de longue durée et surtout qui en souffrent, hein, qui la subissent. Voilà, c'est ça. Et vous êtes auteur d'un livre qui s'appelle 19 thèmes sur la sexualité des musulmans, un livre de questions-réponses de musulmans du 21e siècle sur leur sexualité. Tiens, voilà, je vous passe le livre pour vous montrer. Ça passe pas à la radio, mais vous le verrez sur la captation de l'émission. Alors, nous allons parler d'un sujet vieux comme le monde, dont on parle depuis la nuit des temps. Chacun y va de sa petite anecdote. D'ailleurs, ce matin, tout le monde a des bons filons. Non, rendez-moi mon livre.
Ah, pardon.
Je l'ai corné, mais c'est parce que sinon, vous allez voir ce que j'ai lu.
Ah, j'ai pas compris.
c'était pour le montrer. Tout le monde y va de ses adresses. Alors là, Algérien, Marocain, Tunisien, tout le monde a des bonnes adresses. Mmh. Nous allons parler donc des aphrodisiaques et nous allons surtout parler des vrais faux des aphrodisiaques et surtout nous allons vous donner des conseils santé puisque c'est pas parce que c'est vendu sous le manteau que ça n'a pas d'effet secondaire. Alors déjà, est-ce qu'on peut définir, Nader, ce que c'est qu'un aphrodisiaque naturel?
Alors, d'abord, aphrodisiaque, ça vient du nom Aphrodite, qui était la déesse de l'amour dans l'Antiquité. Donc, déjà, là, on peut comprendre, se dire que depuis les temps immémoriaux, les humains se sont toujours intéressés à ce qui pouvait susciter le désir et aider à une sexualité épanouie. Voilà, déjà. Donc, c'est pas quelque chose que l'homme moderne a inventé.
Oui.
Voilà, de tout temps, on s'est toujours posé cette question parce que la sexualité a toujours fait partie dans ces temps-là déjà. Ça l'est moins aujourd'hui. Ça s'est transformé avec le temps, mais ça faisait partie du sacré. Voilà, parce que.
Alors, quand on parle de ces temps-là, on parle de quel temps, Nader?
Moi, je parle ici surtout de l'Antiquité. D'ailleurs, c'est pas pour rien que l'on voit sur des fresques gréco-romaine, carrément des accouplements. On voit des accouplements où c'est comme si on montrait aux gens, voilà comment il faut faire. C'est une manière d'inciter les gens à faire l'amour. Voilà, c'était quelque chose de vu comme un chemin vers, et sur le plan religieux, sacré. Hein, on parlait d'ailleurs pour le sperme, on regardait la sperme comme de l'eau sacrée. Mais aussi, politiquement, c'était intéressant pour ces populations car c'était un petit peu une politique démographique qui faisait qu'on devenait plus nombreux face à l'éventuel ennemi d'à côté, l'adversaire, la cité d'à côté qui, voilà, on était dans des temps où on se faisait la guerre entre cités, ce qui n'a pas beaucoup changé, et là, il fallait qu'on soit nombreux, toujours plus nombreux, en tout cas plus nombreux que l'autre. Voilà. Donc, les aphrodisiaques étaient un peu une espèce d'outils, c'est pas le meilleur mot que j'ai tout de suite à l'esprit, mais en tout cas ça faisait partie de ce qu'on allait chercher, de ce qu'on allait acheter, de ce qu'il fallait se procurer quand on allait au marché. Voilà.
Alors naturel,
oui, parce qu'on parle d'aphrodisiaque quand justement c'est naturel pour faire le distinguo avec les traitements médicamenteux qui eux justement ne sont pas naturels, donc on parle ici de régime alimentaire si vous voulez.
Et vous verrez ce matin que certains produits qu'on vous vend comme des produits naturels dans certaines échoppes parisiennes et qui viennent de Turquie n'ont que le nom de naturel puisque dedans il y a des substances chimiques. Ça, on en parlera tout à l'heure. Donc, aphrodisiaque, c'est forcément naturel.
Absolument. Quand on dit aphrodisiaque, c'est ça qu'on comprend, c'est ça qu'on entend, c'est ça qu'on a toujours et c'est ça qu'on vend en fait. Quand on parle d'aphrodisiaque, on parle d'aliments naturel, strictement naturel, rien de chimique ajouté. Ce n'est plus un aphrodisiaque, sinon.
Alors, est-ce que l'efficacité est prouvée de ces produits? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui circulent. Ça a des vertus soupçonnées, en tout cas supposées. Est-ce que c'est en tout cas prouvé scientifiquement?
Non, non. Alors voilà, déjà une réponse, pardon d'être aussi catégorique, ça peut décevoir certains de nos auditeurs et nos auditrices. mais rien n'est moins sûr, en fait. Pourquoi ? Mais en même temps, j'ai envie de dire non, mais oui. Voilà, je vais m'expliquer. Non, parce que d'abord, il n'y a pas d'études. Il n'y a pas d'études sur la plupart des aphrodisiaques dont on vous vantera les mérites si vous allez faire vos petites recherches sur Internet. D'études, il n'y a pas. À part quelques produits où il y aurait des débuts d'études, et pour moi, une étude, ça a besoin de temps, ça a besoin de beaucoup de cas qui auraient été, comment dirais-je, mis à l'épreuve pour, et sur un temps donné, sur une population donnée, pour dire, pour valider scientifiquement que cela marche. Mais on peut dire qu'il y a très très peu d'études pour dire que clairement que les aphrodisiaques ça marche. Mais en même temps, pourquoi je dis que c'est quand même un peu le cas.
En tout cas, tous ceux qui en parlent vous disent que ça fonctionne très très bien.
Moi, quand ils nous disent que ça fonctionne très très bien, il faudrait vraiment qu'on voit au cas par cas. Alors pourquoi en même temps c'est intéressant de dire que ça marche. Vous voyez, ça peut paraître contradictoire parce que vous savez, est-ce qu'on a toujours besoin d'études? Moi, je pense que non. Est-ce qu'avec la nature, on a toujours besoin d'études? Est-ce que j'ai besoin de faire une étude pour valider que l'eau, ça mouille? Non, ça, tout le monde le sait. Donc, en fait, il y a quelque chose qui s'appelle l'expérience. Et je pense que c'est ça à quoi font allusion ceux qui disent que ça marche. L'expérience humaine. C'est-à-dire que quand je reçois quelqu'un, je vais regarder avec le patient ou la patiente, d'abord, d'où elle vient. Et c'est très important de savoir d'où vient une personne. Parce que, quand je parle d'expérience humaine, nous sommes tous le fruit d'une relation sexuelle. Donc, nous sommes tous le fruit d'un désir. Donc, il y a déjà, dans le cheminement de tout notre patrimoine génétique, de l'aphrodisiaque, qui, à un moment ou un autre, régulièrement, dans nos familles, etc., a circulé. Et si je prends ce qui est bon pour des populations méditerranéennes, suis-je sûr que ce sera bon pour des populations venues des steppes de l'Asie centrale? Je ne suis pas sûr que ce soit le cas. Ça peut l'être, effectivement, mais je préfère d'abord vérifier l'expérience humaine qui se valide d'elle-même pour voir avec le patient ou la patiente ce qui serait le mieux pour cette personne en particulier. Après qu'on puisse rajouter d'autres choses, évidemment oui, parce que l'humanité voyage, on reste pas à un point fixe, etc. Mais tout de même, les régimes alimentaires des populations de là où elles viennent, c'est quelque chose de très important à ne pas négliger pour la santé des individus.
Qu'est-ce qu'on attend d'un aphrodisiaque?
Alors justement, on attend d'un aphrodisiaque, et ça c'est l'erreur qu'on peut faire, que l'on fait souvent. On attend que cela fonctionne comme un traitement médicamenteux, c'est-à-dire que cela fonctionne tout de suite après, ou une demi-heure après, ou une heure après. Or, ça peut pour certains. Mais, dans l'ensemble, les aphrodisiaques sont faits pour être intégrés dans le régime alimentaire de manière régulière, et non pas comme on pourrait prendre un traitement médicamenteux tel le Viagra ou le Cialis, pour les citer.
Alors on a la version algérienne, là. Comment s'appelle la version algérienne, Fodil, du Viagra? Le
Vialtalc?
Non.
Vialtac?
Le Vialtal. Le Vialtal. Vialtal.
Ouais. Alors ben voilà, il y a
délivré sans ordonnance dans toutes les bonnes pharmacies en Algérie, hein, nous dit Fodil.
Alors, pas qu'en Algérie, j'ai pu voir cela également au Maroc.
Ah oui.
Et alors là, il y a quand même un souci avec ça, c'est que justement, voilà, c'est délivré sans ordonnance. Et l'humain et l'homme en particulier, étant ce qu'il est, il a tendance à prendre beaucoup plus, mais vraiment beaucoup plus que la dose qui lui est prescrite. Et là, il faut quand même le dire, ça peut être très dangereux pour la personne.
C'est pas sans danger.
Ah, c'est pas sans danger, loin de là. Donc il faut faire très attention parce que le cœur a ses limites. La volonté de performance de l'individu, ne prend pas en considération à tort, parce que ça peut être vraiment.
Parfois, quand on a 20 ou 30 ans, ce sont des questions qu'on ne se pose pas.
Oui, On devrait quand même se les poser. Et encore plus quand on est, quand on a des problèmes cardiaques.
C'est-à-dire que l'injonction de performance fait aujourd'hui que des gens de plus en plus tôt prennent des produits qui sont destinés à des populations qui en ont vraiment besoin. Et dépassent la dose pour, dans cette idée d'être encore plus performant.
Voilà. On est, l'homme moderne est, dans ce diktat de la performance. Ce qui n'était pas le cas, jadis. Il y avait, je dirais pas, qu'il n'y avait pas une volonté de performance, une volonté de dominer, une volonté d'inscrire un petit peu sa patte, si j'ose dire. Mais là, c'est devenu vraiment, on prend pour au cas où, si l'occasion se présente. Et si l'occasion se présente pas, ben, on fera autrement. Mais
je ne veux pas savoir plus.
Ouais, voilà.
Non, ne nous en dites pas plus, surtout.
Mais le problème, c'est que si je m'habitue, vous savez, c'est un cercle vicieux. Si je m'habitue à une certaine dose pendant longtemps, j'aurai besoin d'un peu plus et toujours un peu plus et toujours un peu plus. C'est ça le problème avec ce culte de la performance. Donc, si je commence à prendre de telles substances à 20 ans, je prends quoi quand j'en ai 30 ou quand j'en ai 40 ou quand j'en ai 50
ou quand j'en ai besoin?
Ou quand j'en ai besoin.
Ou le jour où j'en ai vraiment besoin. Voilà.
Ça ne répondra plus de la même manière. Et ouais. Là, je suis dans une panique absolue. Et je vais même aller plus loin. Je suis dans une telle panique que je pourrais en prendre. Mais la panique peut prendre le dessus au point que rien ne se passe. Vous voyez ? La peur est là et rien ne se passe. Alors, je fais quoi ? Eh bien, je vais rentrer dans une crainte telle que vont se fabriquer en moi les vrais troubles finalement qui auraient trouvé leur traitement si j'avais pas été prendre ces traitements quand j'en avais pas besoin. Donc il vaut mieux attendre. Il vaut mieux deux choses en fait. D'abord, avoir soigner son mode de vie. Ça, c'est la première des choses. On n'a pas, en réalité, on a tous du désir en nous. On n'a pas besoin de ces choses-là. Les aphrodisiaques, pour moi, sont à inscrire dans un régime alimentaire au quotidien, régulièrement. Bien dormir. L'homme moderne, quand je dis l'homme, c'est l'homme et la femme moderne, ont tendance aujourd'hui à avoir de gros soucis avec le sommeil. Et ça aussi, on pourra en parler.
Le vrai faux des aphrodisiaques avec Nader Alami jusqu'à 10h dans Votre Santé.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS avec Philippe Robichon.
Voilà, le vrai faux des aphrodisiaques ce matin avec Nader Alami qui est psychosexologue. On parle ce matin justement et on essaie de voir ce qui se cache derrière ces aphrodisiaques qui sont en vente partout, qui sont très très en vente sur Internet et qui sont en vente aujourd'hui sous le manteau et dans certaines adresses à Paris que vous nous donnerez tout à l'heure. Est-ce que les aphrodisiaques qui sont efficaces chez les hommes le sont de la même façon chez les femmes?
Pour la plupart, oui. Pour la plupart, oui, on a constaté que ça sécrétait de la sérotonine pour les uns comme pour les autres. Ça fluidifiait la circulation du sang dans les artères, grandes et petites, et que justement, ça aidait à une meilleure excitation pour les hommes comme pour les femmes.
Absolument. Ça, c'est intéressant. C'est une idée reçue qui saute.
Tout à fait.
Alors, est-ce qu'il y a des plantes ou des aliments qui augmentent la libido et améliorent les performances sexuelles de façon certaine? Pour le sexologue que vous êtes.
Alors, moi, je dirais que c'est le cas, mais attention, encore une fois, les gens sont différents. Donc, ce qui peut être le cas pour un individu peut ne pas l'être pour un autre individu. Et je me méfie beaucoup de ces recettes valables pour tout le monde. Voilà, parce que j'ai tout simplement pu constater, je suis sûr que chez vos auditeurs et vos auditrices, vous aurez des gens qui vous diront « Ah ben, on m'avait dit que tel aliment marchait. » Ben non, chez moi, pas du tout. Voilà, clairement, ça me fait rien. Voilà. Mais par contre, il y a, par exemple, ça, c'est très important aussi à comprendre, à intégrer dans son régime alimentaire. C'est les fruits de saison, tout ce qui est de saison, en fait. Tout ce qui est de saison. C'est-à-dire s'inscrire, inscrire son mode de vie dans le respect de la nature. Ne pas se croire décideur, mais plutôt laisser la nature décider. D'ailleurs, elle le décide qu'on le veuille ou non. Et par exemple, là, c'est donc on peut s'en procurer tout le temps. D'ailleurs, moi hier j'étais au marché. J'étais au marché et chaque fois que je vais au marché, ça ne loupe pas. Je vais chez le poissonnier. Et là,
vous avez une vie incroyable, hein. Alors là, Nader, merci de partager ça avec nous.
Je suis un aventurier.
Qu'est-ce qui se passe chez votre poissonnier?
Alors, je lui demande de m'ouvrir 6 huîtres. Et vraiment, je conseille à tous ceux qui nous écoutent de faire l'expérience, la même expérience, et d'essayer pour voir si chez eux ça marche aussi.
C'est-à-dire que vous les ouvrez, mais vous les mangez. Vous les mangez sur place.
Bien évidemment, sur place.
D'accord.
Sur place.
Vous nous expliquez ce qui se passe, Nader?
Eh bien, écoutez, quelques minutes plus tard, j'ai les cuisses qui commencent à me faire des signaux. Voilà, je vous laisse imaginer un peu les...
Non, mais on est là pour s'expliquer, c'est une émission médicale.
Eh bien, voilà. Ça, et de tout temps, c'est vrai qu'on a, dans la littérature, dans l'histoire, chez les Romains notamment, on parle déjà des huîtres, et j'ai pu constater que chez la plupart des personnes que je reçois, c'est vérifié aussi. Donc, on peut dire, on peut conseiller à ce moment-là, tiens, les huîtres, ça marche. Alors, il n'y a pas que les huîtres. Il y a aussi, il y a un régime qui s'appelle le régime méditerranéen, qu'on appelle aussi le régime crétois. Mmh. C'est un régime basé sur beaucoup, qui est très fruits secs, légumes, huile d'olive. Mais là encore, c'est un régime, si vous voulez, c'est un régime pour la vie au quotidien. Ça doit être régulier. On n'est pas là dans un traitement médicamenteux, donc ça doit, on doit, si vous voulez, prendre ça presque tous les jours, si j'ose dire. De l'huile d'olive, par exemple, la privilégier le matin, c'est une bonne chose, et continuer. Par exemple, à limiter sa consommation de viande, ce qui est très difficile pour les gens aujourd'hui. Mais il faut savoir que la malbouffe a ceci de conséquence qu'elle a tendance à boucher nos petites artères. Donc les grosses artères, on peut les libérer en faisant du sport. Mais quand on est petit, c'est beaucoup plus difficile. Et là, ça a des conséquences, notamment pour les hommes.
C'est la circulation du sang.
Ouais, tout est une question ici de circulation du sang. Et donc, pour les hommes, il peut y avoir, peuvent apparaître des problèmes érectiles dus justement à cela.
Bon, Nader, j'aime beaucoup votre régime crétois, mais je vais vous parler d'aliments en particulier qui ont la réputation d'être des aphrodisiaques. Alors, on va commencer par le piment. Si vous faites des recherches, vous voyez partout que le piment est aphrodisiaque. Alors, vrai ou pas vrai?
Alors, c'est vrai, mais attention. Alors, c'est vrai, mais attention, et je pense que cela, on peut le dire pour tout. En fait, si quelque chose vous fait de l'effet, si quelque chose ne fait pas d'effet, on n'en parle pas, mais tout ce qui fait de l'effet, eh bien, a aussi la capacité d'avoir des effets secondaires, c'est-à-dire des effets néfastes. Mmh. Ce qui fait des effets positifs peut aussi faire des effets néfastes. Donc, il faut y aller mollo. Avec le piment, je sais que dans certaines traditions, on a tendance à pas y aller mollo, justement. Et quelque chose dont on abuse, eh bien, pourra, au moins comme effet néfaste, eh bien, ne plus avoir l'effet bénéfique escompté.
Mais est-ce qu'on sait la substance dans le piment qui est active, si je peux me permettre?
On le sait pas vraiment, puisque beaucoup de personnes ne prennent pas de piment. Donc, ce qui est, vous savez, dans le piment, il y a quelque chose qui relève de ça monte, pour parler simple, ça monte au cerveau. Et tout ce qui monte au cerveau, justement, a ces effets-là qui vont faire que ça parle à tout le reste du corps. Et je pense que c'est justement cela qui va faire en sorte que ça va être quelque chose de qui va susciter l'envie de l'individu vers une action sexuelle, vers le désir, vers
ça chauffe en tout cas. Comment? Alors, parmi les autres aliments, alors on a les asperges.
Les asperges, tout à fait.
Oui.
On a les avocats.
Riche en vitamine K, voilà, mm-hmm. qui permet d'améliorer l'afflux sanguin dans le pénis et dans le vagin. Le céleri.
Céleri.
Qui stimule la production de testostérone, figurez-vous.
Absolument. Tout ce qui est, on parlait des huîtres tout à l'heure, tout ce qui est riche en zinc va justement contribuer à la production de testostérone.
Alors l'avocat dont vous parliez, on a le clou de girofle.
Absolument, on a le clou de girofle, on a le cacao noir à privilégier, hein, au moins 75% de noir hein, dans le cacao, ne pas prendre ce qui est mélangé avec du lait, etc. Mmh. Mais privilégier vraiment, plus c'est noir, mieux c'est, au moins 70%. On a l'ail, les oignons frais. Alors, quelque chose d'intéressant sur l'oignon frais, il se peut, voilà, par exemple, que si vous preniez un oignon frais, cru ou cuit, ça ne vous fasse rien. Mais un jus d'oignon frais peut effectivement provoquer quelque chose, vous donner du désir. C'est comme aussi la pastèque. Mmh. La pastèque est très... Ça, je recommande vivement en saison, bien évidemment. La pastèque est très, très connue aussi pour être un aphrodisiaque efficace. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre?
On a vos favoris, les pistaches.
Les pistaches, les amandes. N'oublions pas aussi le gingembre. Le gingembre qui est très, très présent dans la cuisine méditerranéenne, notamment, et qui est reconnu par le plus grand nombre pour avoir des effets sur la libido, donc qui est reconnu comme étant un aphrodisiaque efficace. On a nos amis d'Asie qui nous viennent avec le ginseng. Ginseng qui lui aussi est très réputé, mais là encore, c'est à prendre régulièrement, sur une période, on va dire, allez, entre 2 et 3 mois, de manière régulière. On peut rompre pour que cela continue à avoir des effets à un temps donné et reprendre après, puisque c'est comme beaucoup de choses, si on le prend sur une durée un peu trop longue en continu, il se peut que ça n'ait plus l'effet escompté. Donc on peut le prendre sur 2 mois, 3 mois, puis s'arrêter, puis ensuite reprendre.
Le ginseng a vraiment, pour le coup, la réputation d'être un aphrodisiaque. Hein.
Tout à fait, il a cette
le façon. Gingembre, le ginseng.
Mais là encore, je connais beaucoup de gens qui vous prennent du ginseng et qui vous disent que ça ne me fait rien du tout. Mmh. Alors il y a un produit qui est très à la mode en ce moment, qui nous vient de Malaisie. C'est une plante et qui s'appelle le Tongat Ali. Mon cher Philippe, figurez-vous que si vous allez en chercher aujourd'hui, vous n'en trouverez pas. Tellement les tenanciers, non pas de bars, mais de salles de musculation, en ont fait la promotion, comme quoi cela fabriquerait beaucoup, ça aiderait énormément à la fabrication de testostérone, eh bien, il n'y en a plus. Vous n'en trouverez plus nulle part. Et quand vous demandez à ce qu'on vous en commande, pareil, on est incapable à ce jour de vous dire « Oui, oui, monsieur, on va vous en commander, mais on est incapable de vous dire quand est-ce que vous pourrez le recevoir. » Le Tongat Ali.
Jamais entendu parler, et vous savez comment ça se passe, le cerveau est bien fait. En général, quand vous dites qu'il n'y en a plus nulle part, tout le monde va aller sur Internet pour aller voir où on en trouve. Ça se prend comment, vous savez?
En gélule. Alors, en gélule ou en plante. Voilà. Vous en avez en pot, complément alimentaire, comme vous pouvez trouver, de la même façon que vous pouvez trouver du ginseng ou d'autres produits. Ou alors en plante, parce que à la base, c'est une plante. Mmh. Voilà, et on met ça en poudre et puis on mélange ça avec ce qu'on veut, avec dans un jus, on peut mélanger ça avec du citron ou saupoudrer dans votre salade. Voilà.
C'est-à-dire que la gym et la prise prononcée de protéines ont la réputation de faire mauvais ménage avec la libido.
Oui, tout à fait. En fait, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut toujours privilégier la fluidité dans la circulation du sang. C'est pour ça que l'un des aphrodisiaques les meilleurs, si j'ose dire, ça reste le sport. Avoir une activité physique intense... Ça dépend de l'âge, mais quand on est jeune, il faut qu'elle soit intense. Et c'est pas quand on est jeune, il faut pas se contenter de la marche à pied. On me dit oui, mais la marche à pied, est-ce que c'est une activité physique? Ben non. Si vous êtes en pleine possession de votre moyen, il faut pas se contenter de marche à pied. Ça c'est pour les anciens, les gens beaucoup plus âgés où on va effectivement leur conseiller de la marche à pied. Ça, on appellera ça de l'activité physique. Mais le sport. Être disposé à prendre la lumière du jour et ne pas rester toute la journée devant son écran, enfermé entre quatre murs dans sa maison. Si vous voulez, n'oublions pas une chose de très importante, c'est qu'avant d'être des êtres sociaux, nous sommes d'abord des êtres naturels, nous avons vocation à le rester jusqu'à la fin de nos jours.
Alors, une adresse à Paris, le livreur du bled, on ne sait pas ce qu'il livre. Ah bah on verra tout à l'heure. Attendez, il faut se remettre de ses émotions. Nader Halami est avec nous, le vrai faux des aphrodisiaques, jusqu'à 10h sur Beurre FM.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS avec Philippe Robichon.
Voilà, les filtres d'amour existent depuis la nuit des temps. On parle des aphrodisiaques naturels ce matin avec Nader Halami. Alors les plus connus aujourd'hui, hein, les plus puissants du monde, ce seraient la maca et le ginseng dont on parlait tout à l'heure. La maca, qu'est-ce que c'est, Chkoun ?
La maca, c'est une plante qui nous vient du Pérou. Voilà, donc là encore, voilà, nos amis incas étaient eux-mêmes très versés dans la science des aphrodisiaques. Il fallait vraiment savoir ce qui permettait à l'humain de se reproduire en réalité. Mais c'était pareil chez les Égyptiens de l'époque antique, c'était pareil chez les Grecs, chez les Romains, chez les Babyloniens, chez les Juifs, chez les Arabes. Tous avaient le souci de la sexualité. La sexualité était chose politique, était chose qu'il fallait gérer, savoir gérer. La reproduction était la politique démographique dépendait justement de tout cela. Et donc il fallait avoir les outils nécessaires, les connaître, les enseigner pour justement qu'on soit plus nombreux que le peuple d'en face, au cas où il y a conflit, ou même si nous voulions provoquer conflit en vue d'aller chercher les richesses du peuple voisin.
Alors, il y a un miel dont tout le monde parle aujourd'hui, qui circule sous le manteau, et à ce qui paraît, alors là, c'est comme un cheval au galop.
Alors, oui, mais il faut faire très attention avec ce qui est vendu sous le manteau.
Alors, c'est quoi ce miel ? Vous en avez entendu parler, bien sûr.
Tout à fait. Alors, j'en ai entendu parler.
Ça circule beaucoup dans les milieux musulmans, pour être clair.
Pas que. Beaucoup dans les milieux musulmans, mais pas que. Et pourquoi pas que ? Parce que ça a tellement d'effets que, voilà, vous savez, comme on le dit, le bon vin n'a pas forcément besoin de publicité. Donc les choses se savent. Se savent.
Voilà.
Et le souci avec ça, c'est pour ça que je dis qu'il faut être très vigilant, c'est que parfois, effectivement, alors on nous parle d'un miel qui viendrait du Soudan et qui passerait ensuite par la Turquie où il serait mis sous peau, etc., et vendu ensuite.
Donc
des miels qui viennent du Yémen, ouais. Voilà, il y a plein de choses.
Qui sont super chers, hein. Yémen et Soudan, c'est des miels assez chers. Hein.
Alors le pot est vendu autour de 30-35 euros, voilà. C'est une cuillère à café qu'il faut prendre, très bien. Mais là où il faut faire très attention, c'est que parfois, et ça c'est pas toujours dit, il y a dans ces pots rajouté une petite pointe de Viagra.
L'effet c'est pas l'effet du miel.
Et voilà, la question est là. Est-ce que c'est l'effet du miel ou est-ce que c'est un petit peu beaucoup l'effet du Viagra, de petite dose de Viagra qui est rajoutée là-dedans. Alors, ce serait pas si grave si au moins c'était dit annoncé dès le départ pour que la personne sache si elle y a, entre guillemets, si elle y a droit ou pas. Parce que quelqu'un de malade, quelqu'un qui a un cœur fragile, par exemple, il faut absolument que cela soit validé par son médecin. On ne le dira jamais assez. Et d'ailleurs, j'en profite pour le dire, même pour les aphrodisiaques, donc naturels, 100% naturels, quand quelqu'un décide d'y avoir recours régulièrement, je l'invite à en parler à son médecin. On ne change pas comme ça tout d'un coup de régime alimentaire, surtout si on suit un traitement médicamenteux pour le diabète, pour la tension, etc. Il y a des choses qu'il ne faut peut-être pas mélanger.
Et puis, il y avoir des interactions. Et c'est pas parce que c'est des plantes ou que c'est naturel que ça ne peut pas avoir d'effet secondaire.
Exactement, exactement.
Ça, on le répète assez souvent dans cette émission.
Alors, voilà. Et donc, pour ces fameux miels, c'est encore plus le cas, puisque là est caché... Alors, attention, à la place qui est la mienne, je ne pourrais pas dire que c'est toujours le cas. Mais j'ai pu voir que c'était le cas. C'est parce que...
Non, vous l'avez vu. Vous parlez de quelque chose que vous avez vu.
Absolument, absolument. Et d'accord, des choses qui sont totalement dites. Parce que certains ont l'honnêteté de le dire, de vous le dire clairement. Voilà. Il y a quand même, attention, faut le savoir. Voilà.
Alors, le fameux livreur du bled dont on parlait tout à l'heure.
Alors, c'est un magasin qui se situe à Paris, rue des Poissonniers, me semble. Mais voilà, vous allez faire votre petite recherche. Et ce sont des produits africains.
Et ah, ils sont super forts.
Et les Africains aussi.
Ils ont des recettes de sous le.
Absolument.
De sous le coude.
Et c'est naturel. C'est naturel pour le coup. Et j'avais moi-même pour la petite histoire, j'avais moi-même eu le plaisir immense de voyager au Mali et en Guinée-Conakry. Et voilà qu'un jour, juste avant de rentrer à Paris. Donc je suis invité chez une famille à Bamako au Mali donc et on voilà un grand buffet magnifique avec des viandes avec des salades etc etc et puis une assiette avec une épice qu'ils appellent le cancancan je me sers et puis il y a un jeune garçon qui me dit attention monsieur n'en prenez pas trop bon j'avais déjà commencé à me servir et c'était tellement bon que j'en rajoutais. Et il me dit, monsieur, n'abusez pas. Écoutez, d'accord, mais pourquoi donc ? Mais monsieur, vous connaissez pas le cancancan ? Je dis, non, pas du tout. Il me dit, mais c'est une épice qui va vous mettre dans un état. Ah bon ? Et bon, donc, j'ai réduit un petit peu la dose. Mais figurez-vous que j'avais un avion à prendre quelques heures après. Et je peux vous dire qu'effectivement, c'était pas simple. Le cancancan, je vous le conseille vivement si vous allez chez nos amis le livreur du bled, il doit en avoir ou le commander. Oh, effectivement, ça c'est tout à fait naturel et tout à fait, enfin en tout cas sur moi ça a marché.
Bien, on verra si on est écouté, si le livreur du bled est en rupture de stock de cancancan. Vous allez voir, il suffit de dire aux gens, allez-y, ils vont y aller. Alors, on a parlé de la maca, on a parlé du ginseng, mais il y a d'autres aphrodisiaques naturels hein, qu'on trouve sur le marché. Le fenugrec,
oui,
par
exemple. Le fenugrec, le trubulus, qui est, lui aussi sont c'est ce qui aide à la fluidité du sang.
Le tribulus.
Romains, c'est une plante que les Romains utilisaient énormément. Voilà.
Il y en a une qui porte bien son nom, le bois bandé. Ça existe toujours, ça ?
Oui, tout à fait. Nos amis antillais en prennent l'écorce et la mélangent avec du rhum. Voilà. Et chez eux, c'est quelque chose d'assez courant. Et faudra demander, mais je n'ai jamais connu d'antillais qui me disait que ça ne marchait pas. Donc c'est quelque chose qui, semble-t-il, a des effets tout à fait reconnus chez nos amis des Antilles. C'est intéressant de voir, Philippe, comment effectivement, par région, par milieu naturel, on adopte tel ou tel aphrodisiaque.
Alors, il y a un produit hein, dont tout le monde parle en ce moment. Prudence, c'est le camagra. Donc, regardez un petit peu les... Pareil, hein, ça circule sous le manteau. Tout le monde est au courant, tout le monde sait. Mais regardez un petit peu les... encore, c'est toujours pareil. Hein, ce sont des produits, c'est pas anodin. Il faut vérifier les contre-indications. Ça, c'est important. Au final, quelles sont les bonnes questions à se poser, Nader, avant d'opter pour un aphrodisiaque naturel ?
Moi, je pense que le meilleur aphrodisiaque, d'abord, on revient à ce qu'on disait, c'est une bonne hygiène de vie. C'est-à-dire que dormir à pas d'heure, ne pas avoir d'activité physique régulière, plus ou moins intense, ne pas être disposé à recevoir la lumière du jour, donc se priver de vitamine D, cultiver un bon moral. C'est ça le véritable aphrodisiaque, la bonne hygiène de vie. Maintenant, bien évidemment, il se peut, donc, et l'alimentation, une alimentation équilibrée, variée, riche, tenant compte de ce que je disais tout à l'heure, de son patrimoine génétique. Nous sommes déjà le fruit d'une relation sexuelle, donc aphrodisiaque, il y a.
Mais moi, j'ai envie de vous parler de la confiance en soi. Ceux qui, parfois, ont recours aux aphrodisiaques sont des gens qui n'ont pas forcément confiance en eux. Mmh. Et ils prennent, d'une certaine façon, je mets des guillemets, hein, une béquille, en se disant, je vais prendre ça. Comme ça, ça va me permettre d'être plus performant. Vous voyez, l'alimentation, les gens vont dire oui, bien sûr. Mais nous, en fait, ce qu'on veut, c'est l'équivalent de la petite pilule bleue et que ça fonctionne, voilà, sans les effets chimiques. C'est ça.
Ouais. L'effet placebo est toujours intéressant. Vous savez, les croyances sont là et il ne s'agit pas toujours de les bousculer. Il y a des croyances qu'il faut garder. Donc, que j'ai besoin d'une béquille, très bien. Que je sois persuadé que cet aliment-ci soit une bonne béquille pour moi, je garde cette croyance. Pourquoi la combattre ? Et puis, si ça marche, tant mieux. Mais si ça ne marche pas, ne pas s'affoler. Voilà. Et là, au préalable. Et d'ailleurs, je veux vous dire une chose. On peut se dire que cette béquille, je vais l'aider. Et c'est pour ça qu'une bonne hygiène de vie, un bon mode de vie va aider. Et d'ailleurs, même les traitements médicamenteux. Les traitements médicamenteux les plus connus, que ce soit le Cialis ou le Viagra ou les génériques, il faut les aider. Et pour mieux les aider à avoir un bon fonctionnement sur notre métabolisme, il faut cultiver cette bonne hygiène de vie. On peut aussi, Philippe, mélanger les deux. Alors, j'ai souvent cette question. Est-ce qu'on peut prendre un produit, un médicament, du Cialis ou du Viagra, et un aphrodisiaque ? La réponse est, attention, encore une fois, précisons-le, avec l'avis de votre médecin, puisque de toute façon, c'est lui qui vous prescrira les traitements médicamenteux. Mais vous pouvez prendre, par exemple, quotidiennement pendant une durée de 3 mois, du Tadalafil, qui est le générique de Cialis, à petite dose, 5 mg chaque jour à la même heure, et avec cela, un aphrodisiaque, celui qui vous conviendra le mieux, et ça va vous aider à avoir un petit peu l'effet escompté, parce que vous allez intelligemment mélanger une petite dose de médicaments parce que vous en avez besoin et seulement parce que vous en avez besoin. Donc il faudra vraiment voir cela avec votre médecin, avec de l'aphrodisiaque, avec un traitement au naturel.
Bon, et attention aux arnaques, parce qu'il y a énormément d'arnaques dans ce secteur d'activité.
Il semblerait, Philippe, que ce soit parmi les choses les plus vendues sur Internet en ce moment, les aphrodisiaques.
C'est vrai.
Tout ce qui
attention à la poudre de perlimpinpin qui vous fera du mal au porte-monnaie, mais qui vous fera, c'est tout ce que ça vous fera. Hein. C'est plein de vide. Vous réécouterez cette émission en podcast. Vous verrez la vidéo sur la chaîne YouTube de Beurre FM. Je vous rappelle que donc c'est le Cancancan. Et puis, si vous allez au marché, vous voyez votre poissonnet, vous mangez 6-8 et vous sentez si ça vous picote dans les cuisses. C'est ça que j'ai compris,
c'est
Nader. Hein, c'est ça que j'ai retenu. Merci d'avoir été avec nous et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.